Comme tous nos clients prévoyants, mettez votre famille à l'abri avec l'assurance décès. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Au cours de la grossesse, pour prévenir certains risques, la future mère subit une série d'analyses, des renseignements importants sur le groupe sanguin, facteur rhésus, numération des globules pour éviter l'anémie ou encore l'immunisation contre certaines infections. Aujourd'hui, c'est d'un autre risque associé à la grossesse dont nous parlons dans Priorité Santé, le diabète gestationnel. Lorsque le sang maternel présente un taux de glucose trop élevé, affection assez fréquente, qui en cas de complication peut se révéler dangereuse pour la santé de la mère comme de l'enfant. Une fois ce diabète dépisté, une prise en charge adaptée est mise en œuvre, un régime alimentaire approprié, surveillance régulière et pour les patientes dont la glycémie reste trop haute, injection d'insuline. Ce protocole pour la future mère est associé bien sûr au contrôle de la croissance fœtale du futur bébé et en cas de diabète gestationnel, eh bien ce contrôle va se poursuivre après la naissance pour le bébé comme pour la mère en prenant compte du fait que ce déséquilibre au cours de la grossesse augmente de manière sensible le risque pour la femme de développer par la suite un diabète de type 2. Diabète gestationnel et aussi devenir maman lorsque l'on est diabétique. Nous vous donnons la parole. On attend vos messages sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 1 84 22 75 75. Dépistage, suivi, prise en charge du diabète au cours de la grossesse. Avec nous, en studio, professeur Emmanuel Cosson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diabétologue au centre hospitalier Jean Verdier de Bondy en région parisienne. Et tout à l'heure, nous rejoindrons au Mali le professeur Assassi Dibé, endocrinologue, professeur à la faculté de médecine de Bamako, ancienne chef du service de médecine endocrinologie à l'hôpital du Mali de Bamako. En fin d'émission, on va retrouver le docteur Catherine Solano, sexologue, qui va répondre à la question d'un auditeur.
Priorité santé sur RFI.
Alors, deux choses différentes, deux problématiques sur lesquelles on va revenir au cours de cette émission. Le suivi de la grossesse des femmes atteintes d'un diabète d'un côté. Et puis, autre question, l'hyperglycémie détectée à l'occasion d'une grossesse. On parle de diabète gestationnel, le mot est un peu compliqué, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, la journée mondiale du diabète, c'est demain. On s'intéresse juste à cette maladie pendant ce moment très particulier de la vie, déséquilibre détecté au cours de la grossesse, avec cette première question toute simple, professeur Emmanuel Cosson. Est-ce que le diabète gestationnel, c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que beaucoup de femmes enceintes découvrent, après quelques mois, qu'elles ont un diabète anormal?
Alors oui, c'est fréquent. Maintenant, actuellement, on peut imaginer à peu près une femme sur six pendant la grossesse aurait un diabète gestationnel. Les critères diagnostiques ont baissé, c'est-à-dire que les glycémies, elles sont assez faibles pour définir un diabète gestationnel. Et en France, actuellement, sur des dépistages sélectifs, on est autour de 10-11%. Nous, sur Bondy, par exemple, on est à 20%, donc c'est énorme. Et dans le monde, en général, avec les nouveaux critères, on est autour de 18%.
Vous dites dépistage sélectif, ça veut dire que le test n'est pas systématique?
Alors, ça dépend, en fait, des écoles. En France, on a décidé de promouvoir un dépistage sélectif, donc seulement chez les femmes qui ont des facteurs de risque.
On parle justement de ces facteurs de risque, ce sont lesquels?
Alors, les facteurs de risque, c'est l'âge supérieur à 35 ans, le surpoids, les antécédents familiaux de diabète dans la famille, donc les antécédents d'une grossesse avec un diabète gestationnel ou d'avoir eu un bébé de plus de 4 kilos à la naissance.
Alors on va décrire très simplement à professeur Emmanuel Cosson comment ça se passe, comment se passe ce contrôle de la glycémie pour la future maman.
Pour les dépistages, donc le test recommandé, c'est une glycémie à jeun en début de grossesse. En fait, cette glycémie, elle veut dépister des femmes qui auraient un diabète avant la grossesse. Comme vous le savez, les diabètes de type 2 sont souvent insidieux, on ne sait pas qu'on est diabétique et ça a un risque particulier. Vous aviez dit tout à l'heure qu'on allait parler à la fois des femmes qui avaient un diabète avant la grossesse et des femmes qui ont un diabète qu'on découvre à l'occasion de la grossesse. Mais on découvre des fois des diabètes à l'occasion de la grossesse et en fait, c'était des diabètes qui
non
préexistaient.
Dépistés. Voilà. Non dépistés.
Donc cette glycémie à jeun en début de grossesse sert à dépister les femmes qui avaient un diabète de type 2 qui n'étaient pas dépistées avant.
Et ensuite, pour celles qui pourraient développer un diabète associé à la grossesse.
Donc ça, ce diabète, en général, il commence à partir de 24 semaines d'aménorrhée, donc à partir du cinquième mois. C'est dû à des modifications hormonales et les glycémies vont s'élever à partir de ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on fait des tests. Le test recommandé, c'est pas une glycémie à jeun seul, mais c'est un test global où on va faire boire du sucre à la future maman. Donc on va mesurer la glycémie avant d'avoir bu le sucre et aussi après avoir bu le sucre à 1 heure et 2 heures après l'avoir bu.
Alors c'est un peu désagréable, hein, dans un gobelet, il y a cette espèce de pâte très 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 sucrée. Et on va voir comment justement, on va dire, le corps traite cet apport en sucre très violent, en fait, parce que c'est rare de... Il faudrait manger un énorme paquet de bonbons, j'imagine, pour arriver à un tel taux de sucre. C'est quelque chose de très important. Et à la fin, donc, la femme sera fixée pour savoir si, oui ou non, elle a développé un diabète gestationnel.
Exactement. Donc, on va considérer les résultats. Quand vous disiez c'est beaucoup de sucre, oui, ça correspond à 15 morceaux de sucre, voilà, ou 15 bonbons.
15 bonbons. Alors, on s'arrête sur le cas des femmes diabétiques. On l'a dit, certaines sont conscientes du problème avant de concevoir le bébé. Donc là, elles vont avoir une prise en charge spécifique. D'autres le découvrent. On va dire simplement, qu'est-ce qu'on va faire justement quand on a un projet d'enfant et que l'on est diabétique? Quelles précautions sont possibles?
Alors, faut en parler. En pratique, souvent, c'est des femmes qui ont un diabète de type 1, mais aussi un diabète de type 2. Alors, le diabète de type 1, c'est les femmes qui sont déjà traitées par l'insuline depuis longtemps. Ça, souvent, elles sont en contact avec un diabétologue et la grossesse se prépare, on est en lien. Les femmes qui ont un diabète de type 2, souvent, elles sont sous-comprimées et sont plutôt suivies par un médecin généraliste et elles ne pensent pas forcément à indiquer à leur médecin « tiens, j'ai un projet de grossesse ». Donc, mon message par rapport à toutes ces femmes qui ont un diabète préexistant, c'est qu'il faut préparer la grossesse. La première chose, il faut que le diabète soit excellemment équilibré. On sait que si il y a une hyperglycémie en début de grossesse, il y a un risque de malformation de l'enfant. Toute la formation des organes de l'enfant, elle se fait pendant les premières semaines de vie fœtale. Et donc, si l'équilibre n'est pas bon, on risque d'avoir des malformations. Et d'ailleurs, il y a des fausses couches. Donc, il faut préparer cette grossesse. Pour les femmes qui sont sous insuline, donc on va continuer à les traiter par insuline, mais les équilibrer le mieux possible. Pour les femmes qui sont sous comprimés, on va arrêter les comprimés qui sont contre-indiqués pendant la grossesse, débuter un traitement par insuline pour qu'elle soit bien équilibrée en début de grossesse.
Ça veut dire en gros que le seul médicament autorisé pour les femmes diabétiques de type 2 lorsqu'elles sont enceintes, c'est l'insuline.
Exactement.
Ou bien sûr d'autres médicaments s'il y a une infection ou quoi que ce soit. Mais du traitement du diabète?
Du traitement du diabète, voilà.
Donc c'est avec le régime alimentaire qu'il va falloir insister, jouer pour stabiliser le taux de sucre.
Les bases du traitement, c'est vraiment l'alimentation, l'activité physique et un traitement éventuel par insuline. Les femmes qui ont un diabète avant la grossesse, en général, elles ont besoin d'insuline. La diététique seule, l'activité physique seule ne suffisent pas.
Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir aussi davantage de contrôle? Là, on parle de la situation en France, parce que bien sûr, c'est pas la même chose partout dans le monde, professeur Emmanuel Cosson. Est-ce que ça veut dire qu'au cours de la grossesse, il va y avoir un suivi, on va dire, plus assidu, davantage de contrôle?
Oui, tout à fait. Alors, on suit les femmes, nous, au niveau diabétologique plus fréquemment, bien sûr, pour voir l'évolution, adapter les doses d'insuline, etc. Il y a aussi un suivi obstétrical particulier. Donc, si on parle des femmes qui ont un diabète avant la grossesse, il y a des échographies supplémentaires, mais aussi pour les femmes qui ont un diabète gestationnel, une échographie 1 mois avant l'accouchement. En pratique, un des risques principaux, c'est que le bébé soit trop gros. Ça, c'est dû au diabète qui est mal contrôlé. Donc, en faisant l'échographie, on évaluera le poids fœtal et on va essayer de transposer le poids qu'aura le bébé à la naissance. Un bébé de plus de 4 kg 250, 4 kg 500, ça pose problème parce que l'accouchement va être difficile. Il peut y avoir des traumatismes de la maman, des traumatismes pour l'enfant à la naissance, avec des risques importants. Donc on va pouvoir anticiper les choses. Donc cette échographie supplémentaire est importante. On fait aussi des monitorings du rythme cardiaque fœtal, par exemple, de l'enfant, très régulièrement, parce qu'il peut y avoir une souffrance fœtale, le diabète amenant à des modifications de la vascularisation des vaisseaux, de l'irrigation, du placenta qui nourrit l'enfant.
Alors, quand on dit souffrance fœtale, ça veut dire que pour parler très simplement, le bébé a un problème au cœur.
Non, enfin, il y a notamment un problème. Voilà, il ne sera pas assez nourri, il peut même mourir en fin de grossesse. Donc, on va surveiller qu'il ne souffre pas. Et s'il y a une souffrance, déclencher l'accouchement très, très vite.
Est-ce qu'un diabète peut motiver un accouchement par césarienne ?
Oui, lorsque justement on évalue le poids fœtal et qu'on pense qu'il va dépasser, ça dépend un peu des 4 kg 250 ou 4 kg 500, alors on peut être amené à anticiper et faire une césarienne.
Tout de suite un témoignage dans Priorité Santé. En liaison avec nous au téléphone, Sorona, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vous êtes enceinte de votre deuxième enfant. Vous êtes dans le dernier mois de grossesse, c'est bien ça ?
Exactement, c'est ça, oui.
Alors, dans quelles circonstances, Sorona, votre diabète gestationnel a-t-il été diagnostiqué ?
Alors, mon diabète gestationnel a été diagnostiqué au bout du 4e mois de grossesse, lors du suivi mensuel avec la sage-femme. Donc, je lui ai apporté les résultats des analyses que je fais régulièrement, donc tous les mois. Et c'est à la lecture de ces résultats qu'elle s'est aperçue que je faisais du diabète gestationnel.
C'est votre deuxième enfant, Sorona. Pour le premier bébé, vous aviez également été dépistée ou non ?
Alors, pour le premier bébé, je n'ai absolument pas fait de diabète gestationnel.
Et vous aviez fait malgré tout les contrôles pour savoir si oui ou non vous étiez concerné.
Pardon ?
Est-ce que vous aviez fait malgré tout les contrôles pour savoir si vous étiez concerné ou vous les avez fait seulement à ce moment-ci, vous avez eu le test compte tenu, par exemple, peut-être de votre âge ?
Alors, pour la première grossesse, je me souviens qu'on avait fait le test de glucose, donc le professeur Emmanuel Rousseau en parlait. Donc, c'est d'avaler ce glucose-là et d'attendre pendant 2 heures. Et on s'est aperçu que je n'avais pas le diabète à ce moment-là.
Et aujourd'hui, vous avez un âge différent. On vous a expliqué justement
exactement
que cet âge pouvait être l'un des éléments explicatifs de ce changement de situation pour ce deuxième bébé.
Exactement, oui, plusieurs facteurs. Donc l'âge, aujourd'hui donc j'ai plus de 35 ans, je suis en surpoids, il y a également du diabète dans ma famille. Donc ces trois facteurs ont fait que je suis sujette au diabète gestationnel aujourd'hui.
Alors, première grossesse sans diabète, comment est-ce que vous avez réagi, Sorona, à l'annonce de cette situation quand on vous a dit « oui, ben, cette fois vous êtes concernée ».
Alors très surprise parce que je ne connaissais pas trop le diabète gestationnel, je n'en avais pas véritablement entendu parler, donc très surprise. Et donc du coup, il a fallu vraiment que la sage-femme me rassure. J'ai rencontré par la suite une diététicienne et un diabétologue qui ont vraiment pu m'expliquer ce qu'était le diabète gestationnel et comment bien le gérer pour que ma grossesse se déroule le mieux possible.
Alors ça se gère notamment du côté de l'assiette, du côté de
exactement
l'alimentation. Qu'est-ce qui a changé pour vous ?
Alors, ce qui a changé, c'est varier vraiment mon alimentation, privilégier les légumes, éliminer les féculents, les boissons, tout le sucre, vraiment l'éliminer, remplacer les féculents comme le riz ou les pâtes par du riz complet, des pâtes complètes, et réduire vraiment mon alimentation.
Est-ce que ces conseils nutritionnels sont compliqués à observer, à appliquer ? Est-ce que vous faites violence justement pour ne plus avoir ces habitudes d'avant qui justement contribuaient à la prise de poids et aussi à avoir un taux de glycémie important ?
Alors au départ, non, ce n'était pas compliqué parce que j'ai une grossesse assez difficile et je n'avais pas véritablement d'appétit. Donc c'était assez simple de suivre le régime. Mais là, depuis 2 mois, étant donné que je me sens un petit peu mieux, donc un regain d'énergie, j'ai un peu plus envie de manger. Donc là, ça devient un peu plus compliqué.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez en surpoids avant la grossesse. Vous avez pris beaucoup de poids justement. Vous êtes juste de plus en plus proche du terme. Hein. Est-ce que vous avez pris beaucoup de poids depuis le début de la grossesse ?
Alors justement, c'est l'avantage. Je n'ai pris qu'un seul kilo.
Est-ce que vous avez eu les félicitations de votre médecin ou de la sage-femme ?
Ah oui, oui, oui. Tous les mois, dès que je monte sur la balance, j'ai droit à des félicitations. Je me félicite moi-même.
Vous avez bien raison. On va pas s'en priver de se féliciter. Et alors, vous contrôlez votre glycémie tous les jours ? Ça se passe comment ?
Oui, tous les jours. Donc, j'ai un petit carnet avec un petit boîtier sur lequel je dois justement me faire des petites piqûres sur les doigts, mettre une petite goutte de sang sur ces lancettes. Et ça détermine en fait ma glycémie à jeun et après repas.
Et on vous a expliqué ce qui va se passer après l'accouchement ?
Après l'accouchement, il me semble que je vais encore être contrôlée pendant une semaine. Bébé aussi va être contrôlé. Et voilà.
Et vous avez encore une échographie avant le jour J, avant le grand jour ?
Alors justement, la dernière échographie a eu lieu hier.
Ah.
Donc, a priori, pas de déclenchement de prévu. Bébé est a priori dans les normes. Donc, pour l'instant, il faut continuer à suivre le régime, vraiment s'accrocher. Parce que les dernières semaines sont les plus difficiles. Donc, vraiment s'accrocher. Et puis,
Là, vous êtes près du but.
Et puis, tout ira bien.
Vous êtes près du but.
On est très près du but. On arrive à la fin.
Très bonne continuation. La naissance est prévue pour ?
En principe, le 13 décembre.
Eh bien, donnez-nous des nouvelles à ce moment-là. Très bonne continuation, Sorona. Merci beaucoup pour votre témoignage. Professeur Emmanuel Cosson, on vous retrouve. On a entendu des conseils en termes d'alimentation. Dans le cas de Sorona, pas d'insuline. Qu'est-ce qui va déterminer justement que oui ou non, à cause ou pour accompagner ce diabète gestationnel, il y aura une injection d'insuline ?
Alors, Sorona l'a dit, elle surveille ses glycémies avant les repas et puis après les repas. Donc on a des objectifs. Si les objectifs sont au-dessus, ça veut dire que l'enfant, le fœtus est exposé à l'hyperglycémie, ce qui pose problème. Et donc c'est à ce moment-là qu'on décidera qu'il faut mettre une insuline. Alors c'est 1 à 4 injections par jour. C'est pas une seule piqûre par jour. Ça peut être plusieurs.
Et du côté justement de ce levier essentiel pour réguler le taux de sucre, l'alimentation, est-ce qu'il y a un régime type ou est-ce que chaque régime s'adapte à la personne, à la femme et aussi à la région du monde en fonction, bien sûr, de l'alimentation spécifique?
Oui, bien sûr. Par exemple, moi, je travaille à Bondy. On a une population multiethnique avec des origines très différentes. Donc, il y a un modèle qui est des légumes, de la variée, etc. Éviter quand même les boissons très sucrées, genre les sodas, enfin ça on évite.
Ça c'est la base.
Voilà. En revanche, on va prendre des féculents. Sorona disait, j'évite tous les féculents. En fait, c'est pas vrai. Elle dit, je prends plutôt du pain complet, du riz complet et tout ça. Effectivement, ça fait moins monter la glycémie, donc c'est des choses importantes, mais il faut continuer à manger des féculents. Donc on va travailler sur ça avec les femmes. Essayer de manger aussi moins gras. Donc les sauces, etc., on va les éviter.
Qui se transforment en sucre,
oui,
dans l'organisme.
Oui, ça favorise. Enfin, il y a le sucre, on parle surtout du sucre quand il y a le diabète, mais finalement il y a aussi le gras et tout ça, ça favorise la prise de poids du fœtus. Voilà. Et puis il y a l'activité physique à côté qu'on peut continuer pendant la grossesse sans problème.
Qui doit être adaptée à la situation.
Oui, quand même, bien sûr, on ne va pas faire des sports dangereux.
Mais en tout cas, on ne dit pas aux femmes de rester clouées à la maison hors de question.
Pas du tout.
Alors, on va tout de suite donner la parole à d'autres auditrices, si vous le voulez bien.
Priorité santé sur RFI.
Auditrice qui nous appelle du Gabon, c'est Anaël. Bonjour Anaël.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Bonjour.
Nous sommes à votre écoute, allez-y.
Alors, moi, j'ai eu un diabète gestationnel à ma 3e grossesse.
Mmh.
Les deux précédentes, j'avais pas eu de signal, j'avais même pas fait le test. Ma 3e grossesse, j'avais 38 ans, donc le médecin avait jugé nécessaire que je fasse un test de glycémie. Et bien entendu, le test s'est avéré positif. Alors, mon doute a toujours été, est-ce que ce n'est pas le test qui a déclenché ce diabète-là ? Ceci dit, j'ai quand même eu un suivi très rapproché pendant toute la grossesse et par moment des injections d'insuline parce que je dépassais largement le taux. J'étais très affaiblie pendant toute la grossesse et une grossesse qui est arrivée à terme à 8 mois et demi avec un bébé de 2,7 kg normal, mais qui ne supporte pas le sucre non plus. Donc, je voulais savoir si ça avait un effet, si c'était lié.
Mm-hmm.
Et surtout si ce test de glycémie avait été un élément déclencheur de ce
diabète gestationnel. C'est une question qui vous est souvent posée, professeur Emmanuel Cosson. Est-ce que ce fameux verre, qui est absolument dégoûtant, mais qui est très important quand même d'incurgiter, est-ce que ce fameux verre de sucre peut rendre diabétique ? Alors, je pense que la réponse va être simple.
C'est non, ça ne rend pas diabétique. Vous pouvez être rassuré, Naël. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste un test. On va essayer de voir si votre pancréas il arrive à sécréter assez d'insuline pour que quand vous mangez beaucoup de sucre, votre corps va pouvoir contrôler ça et qu'il n'y ait pas trop de sucre qui aille jusqu'au futur bébé.
Donc ce n'est pas le test qui déclenche le problème. Le problème était préexistant. Deuxième question d'Anaël. Est-ce que, on va dire, une sorte d'aversion de sa fille, en tout cas un dégoût pour le sucre, peut être associée à la maladie au cours de la grossesse?
Non, il y a aucun argument pour dire cela. Alors, c'est vrai que vous faites un lien, forcément, puisque vous avez du diabète pendant la grossesse, ça vous a embêté. Vous avez dû faire un régime particulier et puis vous associez ça au goût de votre fille, mais il n'y a pas de lien.
C'est ce qu'on appelle, on appelle dans le langage courant bec salé, bec sucré. Il y en a qui préfèrent le sucre, il y en a qui préfèrent le sel. C'est un goût personnel.
Je voulais, Anaël, vous avez dit que vous n'aviez pas été dépistée pendant les deux premières grossesses. Et c'est vrai, après, vous avez un peu, vous avez vieilli, on a fait ce dépistage. Est-ce que vos deux premiers enfants avaient un poids de naissance important de plus de 4 kilos?
Non, absolument pas. 2,3 kg et puis 2,1 kg. Donc c'était des enfants de poids de tout à fait normal.
D'accord. Je vous pose la question parce qu'il y a des femmes qui donc ne se font pas dépister, et un bon argument pour dire éventuellement j'ai eu un diabète pendant la grossesse sans le savoir parce que j'ai pas été dépisté, c'est de regarder les poids de naissance. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on a un diabète et qu'on le contrôle pas, on le sait pas, il n'y a pas de signe de diabète gestationnel, si le bébé va prendre beaucoup de sucre parce que on va pas le traiter, ce sucre il va le stocker sous forme de graisse, et c'est pour ça qu'il peut être gros à la naissance. Et c'est un bon argument pour dire qu'éventuellement, il y a eu un diabète gestationnel sans le savoir. Et comme il y a une récidive très fréquente, alors il faut s'en inquiéter aux prochaines grossesses.
Merci infiniment, Anaël, pour votre appel. On va partir pour la Guinée, pour Conakry, où nous sommes en ligne avec Kadijatou. Kadijatou, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Nous vous écoutons.
Bonjour, docteur.
Oui, le professeur est à votre écoute. Allez-y.
Je voudrais vous parler de ma sœur.
Oui.
Elle a 32 ans. Mm-hmm. C'est sa cinquième grossesse. Mm. Elle est allée à l'hôpital. Elle a à peu près 2 à 3 mois de grossesse. Elle a fait des examens. Mm. Le médecin l'a signalé qu'elle a un début de grossesse, de diabète. Mm-hmm. Maintenant, elle est anxieuse. On l'a conseillé, le médecin l'a demandé de diminuer le sucre.
Oui. Votre sœur, vous avez dit, elle a 32 ans. Elle est en surpoids,
oui.
Votre sœur?
Oui, oui.
Et le diabète là, qui lui a été, qui a été diagnostiqué, il a été diagnostiqué après 2 mois de grossesse seulement?
Oui, oui. Elle allait pour voir si c'était une grossesse. Elle avait un retard de 1 mois et mm-hmm. quelques. Elle est allée, elle a fait le test là-bas et puis le médecin a confirmé que ça, c'est une grossesse, qu'il faut qu'elle fasse des examens.
Alors la question que je vais vous poser, Kadijatou, c'est est-ce que depuis que le médecin lui a dit ça à votre sœur, est-ce qu'elle a changé sa façon de manger? Est-ce qu'elle a, par exemple, limité certains aliments?
Bon, sauf le manger où il y a du sucre, le matin comme ça, le sucre, elle ne mange plus beaucoup de sucre. Même hier, je l'ai appelée afin qu'elle puisse participer à l'émission, mais elle était occupée, mais je l'ai demandé. Elle m'a dit que maintenant, actuellement, elle mange très peu de sucre avant le retour pour aller voir. Le médecin l'a demandé d'aller.
Et les féculents, le riz?
Non, elle mange comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Oui.
Elle mange par exemple encore des bananes, ce genre de choses?
Oui, deux fois, pas trop.
Pas trop. La question qui se pose à travers ce qui se passe pour la sœur de Kadijatou, professeur Cosson, c'est que ce diabète a été dépisté de façon très précoce pendant la grossesse. Est-ce qu'on doit penser justement à un diabète gestationnel ou à un diabète préexistant?
Alors les arguments pour un diabète préexistant, c'est quand les glycémies sont très fortes, le taux de sucre très fort. Donc je ne sais pas, Kadijatou, si vous connaissez le taux de sucre qu'avait votre sœur en début de grossesse, mais en tout cas, si ça dépasse 1,26 g, par exemple, qui est le seuil du diabète en dehors de la grossesse, on pense, nous, que c'est un diabète qui préexistait à la grossesse. Pour des seuils intermédiaires, bon, c'est un signe d'alerte. Il y a quand même un taux de sucre qui est élevé, et donc on les prend en charge, et c'est très bien. Et ce que fait votre sœur, bah, c'est des efforts, mais ça devrait porter ses fruits.
Voilà, un contrôle justement au cours de cette grossesse pour bien essayer de ne pas faire encore augmenter le taux de sucre dans le sang. On vous remercie beaucoup, Khadijatou, et bonne continuation à votre sœur. Hein. Bonne journée à Conakry. On va partir pour la France, Toulouse, avec Fabienne qui est avec nous. Fabienne, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous êtes la présidente de l'Association française des femmes diabétiques. Vous avez justement un rôle d'information et vous vouliez témoigner justement de cette situation qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'évoquer directement depuis le début de cette émission. C'est justement comment on vit une grossesse quand on est diabétique. Vous, dans votre cas personnel, Fabienne, vous êtes diabétique de type 1, c'est bien cela ?
Voilà, je vis avec un diabète de type 1, c'est-à-dire que mon pancréas ne produit plus d'insuline. Du coup, depuis la découverte de cette maladie il y a 20 ans, je dois m'injecter des doses d'insuline et être attentive à mon régime alimentaire et à ma façon de vivre.
Donc, avant la grossesse, avant la conception de l'enfant, vous étiez consciente qu'il fallait justement avoir une surveillance particulière?
Oui, voilà, j'avais la chance d'avoir été informée par la diabétologue qui me suivait du fait que quand on veut un bébé, bah, il faut préparer cette grossesse, il faut arriver à maîtriser au mieux son diabète pour éviter que celui-ci ait des impacts sur le bébé.
Alors comment ça s'est passé, on va dire, mois après mois, trimestre après trimestre pour cette grossesse ?
Alors déjà, avant la grossesse, avant ma première grossesse, j'ai eu deux bébés, j'ai mis en place une pompe à insuline parce que ça m'a aidé à avoir, avoir une insuline qui était plus proche de ce que faisait le pancréas naturellement. Donc j'ai mis en place une pompe à insuline avant la première grossesse. Et puis ensuite, pendant toute la grossesse, j'ai eu un suivi médical accru. J'allais voir la diabétologue, donc... deux fois par mois à partir du deuxième trimestre. La gynécologue également plus souvent. J'avais plus d'échographies pour surveiller la croissance du bébé. Et à la fin de chaque grossesse, je faisais à la maison un monitoring, donc pour écouter le cœur du bébé tous les jours, et j'envoyais les résultats à l'hôpital tous les jours. Donc le premier accouchement a été déclenché. Le deuxième n'a pas été déclenché parce que le bébé a décidé d'arriver tout seul, ce qui m'a rendue très heureuse. Mais voilà, et donc du coup après j'ai pu aussi allaiter mes bébés sans problème avec le diabète en étant attentive aux glycémies.
Justement parce que l'allaitement peut faire varier là encore le taux de glycémie, donc il faut que tout ça reste bien équilibré.
Exactement, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le taux de glycémie. Mais donc avec tous les outils dont on dispose maintenant, toute l'information, toute l'éducation qu'on a maintenant, on peut sans problème avoir un bébé.
Alors un bon suivi, Fabienne, et on peut le dire, grâce à ce suivi, pas de complications, c'est ça ce qui s'est passé pour vous ?
Un très bon suivi avec une équipe qui connaissait bien le diabète, donc à la fois un diabétologue et une gynécologue qui se parlait et qui parlait avec moi aussi pour avoir le meilleur équilibre possible pendant tout le temps de la grossesse. Et effectivement, j'ai pas eu de complications moi-même et pas eu de complications pour les bébés qui étaient de poids et de taille normaux quand ils sont arrivés et qui vont très bien encore aujourd'hui.
Merci beaucoup hein, Fabienne pour ce témoignage. On voit par rapport à ce que nous a dit Fabienne, ce suivi excellent justement, beaucoup de prudence, beaucoup de précautions qui ont porté leurs fruits. Et ben ça nous met un petit peu en porte-à-faux avec ce qui se passe pour Mohamed hein, qui est en Guinée-Conakry à Cancan. Il nous envoyait un témoignage, message Facebook pour nous parler de la situation de son épouse. Sa femme est diabétique de type 2 depuis 3 ans. Elle est enceinte actuellement pour la première fois, terme en janvier, accouchement prévu en janvier. Et Mohamed demande est-ce que sa femme doit avoir un comportement à suivre durant la grossesse au niveau alimentaire. Alors cette question... elle montre que si justement l'épouse de Mohamed était suivie, effectivement, hein, professeur Cosson, on lui aurait dit, madame, eh bien, il y a des choses spécifiques à faire au cours de cette grossesse, justement pour que votre taux de sucre ne s'envole pas.
Oui, exactement. Donc, il y a l'alimentation, mais dans les cas de diabète préexistant, souvent, il y a l'insulinothérapie. Il y a une surveillance aussi du taux de sucre au bout du doigt. Qu'il faut faire pour justement adapter les insulines, ce qui n'est pas forcément simple dans des structures différentes qu'en France, où on voit Fabienne a eu un suivi particulièrement parfait. Mmh, voilà. Mmh. Et c'est ce qu'on fait en France, on a vraiment de la chance. Et je pense que quand on entend des témoignages comme ça, on se dit que c'est un vrai succès, puisque une femme qui vit avec un diabète peut avoir une grossesse normale. Mais il y a beaucoup d'efforts quand même derrière.
Donc ce qu'il faut dire à Mohamed, hein, donc il y a Cancan, c'est que sa femme doit consulter, c'est très important. Il faut qu'elle aille en consultation prénatale, un certain nombre sont pris en charge. Il faut qu'elle aille vers un centre de santé et qu'elle parle non seulement de cette grossesse qui a commencé, mais bien évidemment qu'elle signale au médecin qu'elle est diabétique et qu'elle n'hésite pas à lui poser toutes les questions, qu'elle explique ce qu'elle mange, qu'elle explique quels sont ses comportements et puis qu'elle explique aussi quelles sont ses craintes et qu'est-ce qu'elle doit faire justement pour que tout se passe au mieux. Ça veut dire, est-ce que cette femme donc qui poursuit cette grossesse en Guinée, est-ce qu'elle doit avoir davantage de consultations qu'une femme non diabétique?
Oui, on voit bien, en général, il y a beaucoup de consultations et on essaye d'avoir des consultations proches pour aider justement ses futures mamans. Et puis, on le voit, lorsque c'est possible, une échographie supplémentaire, des monitorings pour voir le rythme cardiaque fœtal de l'enfant, etc.
Donc, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, bien suivre le taux de sucre au cours de la grossesse et donner ces fameux conseils diététiques. Nous poursuivons notre échange. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, même si on en a un petit peu parlé indirectement, professeur Emmanuel Cosson. C'est est-ce que le fait de développer ou d'avoir un diabète au cours de la grossesse, est-ce que ça va modifier le déroulement de l'accouchement?
Non, en général, actuellement, lorsque le diabète est bien contrôlé, bien suivi, on fait un accouchement comme une femme qui n'a pas de diabète gestationnel, puisque finalement, elle est bien équilibrée, etc. Donc ça, c'est vraiment un avantage, c'est ce qu'on veut faire. Donc il n'y a pas plus de césarienne, etc. Sauf si vraiment le bébé était très gros, mais en général, ce n'est pas le cas.
Alors une question qui peut se poser aussi, hein, c'est est-ce que justement, quand la maman est diabétique, professeur Emmanuel Cosson, est-ce que le bébé, l'enfant à naître, présente lui aussi un risque accru de développer un diabète?
Alors, pour le risque de diabète, en fait, si vous avez un diabète préexistant, il y a un risque un peu plus fort. Pour les mamans qui vivent avec un diabète de type 1, le risque qu'un enfant développe dans sa vie, pas du tout à la naissance, un diabète de type 1 est de 4%, par exemple. Lorsque on en a parlé, le diabète de type 2, c'est un diabète souvent familial. Donc, une maman qui a un diabète de type 2, forcément, il y a un risque pour l'enfant dans sa vie de développer un diabète de type 2. C'est l'hérédité habituelle.
On va tout de suite partir pour Bamako.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, professeur Assa Sidibé, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes endocrinologue, professeur à la faculté de médecine de Bamako, ancienne chef du service de médecine endocrinologie à l'hôpital du Mali. On parlait de ce diabète gestationnel fréquent en France, hein, c'est ce qui ressort des différentes études. Est-ce que vous disposez, professeur Sidibé, de chiffres qui concernent cette fois la situation au Mali?
Par rapport, donc je disais bonjour à professeur Emmanuel Cosson.
Bonjour.
C'est-à-dire qu'au Mali, c'est des études surtout hospitalières. Mais ce qui a été mis en place, c'est les consultations prénatales chez toutes les femmes et qui, on pense, auraient pu nous permettre de détecter d'abord le diabète méconnu du type 2 dès les premières consultations. Et deuxième consultation, troisième consultation prénatale permettrait de détecter justement le diabète gestationnel. Ça, c'est la disposition qui a été mise en place pour qu'on puisse au maximum détecter ce diabète au cours de la grossesse. Maintenant, par rapport aux chiffres, ce sont des chiffres assez partiels et qui concernent les centres de santé. Il y a une étude récente qui a été faite dans un centre de la commune 1 où il y a 0,7% des femmes diabétiques enceintes qui avaient donc ce souci-là. Et un pourcentage national est de l'ordre de 3 à 4%.
Alors, on comprend bien la fréquence de ce diabète gestationnel, c'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Ça plaide pour le suivi des femmes au cours de la grossesse. Vous avez dit, professeur Assa Sidibé, 3 consultations prénatales prévues, mais malgré tout, il y a encore des femmes qui passent entre les mailles du filet. Il faut insister, hein, il faut dire aux dames qui attendent des bébés, il faut absolument aller consulter.
Tout à fait, c'est le souhait, parce que vraiment, c'est ça, des consultations prénatales sont organisée dans tous les centres de santé du Bamako et de l'intérieur du pays. Mais même avec ça, nous avons des femmes qui arrivent en terme sans jamais passer par cette consultation prénatale. Donc c'est le gros souci qui se pose, qu'il faut sensibiliser les femmes, en tout cas les femmes en grossesse, au moins de suivre ces consultations prénatales qui permettraient donc d'essayer de détecter ces diabètes.
On a parlé tout à l'heure du surpoids comme facteur favorisant le diabète gestationnel. Est-ce qu'on assiste aussi au Mali, justement, à ce phénomène davantage de femmes en surpoids, ce qui pourrait justement conduire à augmenter la fréquence de cette affection ?
Dans la mesure où ça fait partie des facteurs de risque de diabète gestationnel, le surpoids, nous savons que à peu près 50% des femmes au Mali et surtout les femmes en grossesse ont un surpoids. Donc c'est certain que justement ça pousse à faire un dépistage systématique chez ces femmes en surpoids et qui tombent enceintes et qui viennent en consultation. C'est surtout ça. Donc ça nous permet de vite voir si ces femmes en surpoids ont un diabète ou pas et pouvoir les suivre jusqu'à la fin de la grossesse.
On sait bien que le régime alimentaire correspond aux habitudes de telle ou telle famille, tel ou tel endroit du monde. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, professeur Assassi Dibé, à ces femmes qui ont un diabète avant ou pendant la grossesse, qui bien évidemment ont envie de bien nourrir le futur bébé? Quels aliments sont un petit peu hors la loi quand on a un diabète?
Normalement, quand on a un diabète pendant la grossesse, je crois que le problème a été soulevé déjà dans l'émission, mais c'est le truc classique, ces femmes doivent diminuer l'absorption du sucre, vraiment à un certain niveau, surtout les sucres rapides, comme on dit entre guillemets, mais également les sucres lents doivent être consommés à un certain niveau, et surtout les matières grasses. Parce que vous savez que nous, dans nos conditions culinaires, le gras est assez utilisé, et beaucoup utilisé, et encore plus les femmes, quand elles tombent enceintes, on leur propose de manger davantage pour nourrir l'enfant. Donc, on leur propose plutôt dans les familles des régimes hypercaloriques, ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'on devrait leur proposer. Donc, quand ils viennent à l'hôpital, pour celles qui viennent à l'hôpital, nous essayons de redresser cette erreur et de recomposer leur alimentation selon, bien sûr, leur pouvoir. Parce qu'il y a certaines femmes qui ne mangent pas 3 fois par jour. Certaines femmes en mangent plus que ça et d'autres beaucoup moins. Donc, il faut tenir compte de conditions de la femme enceinte et essayer de rééquilibrer leur apport alimentaire, bien sûr en leur demandant la réalité de leur apport alimentaire. Parce qu'il faut savoir ça avant de pouvoir les convaincre à éliminer tel nutriment dans ce qu'ils sont en train de manger.
Justement, c'est toujours un petit peu compliqué de dire manger moins de sucre, manger moins de gras. Quand on s'arrête sur la table au Mali, l'assiette au Mali, ça veut dire manger moins de quoi ? De riz, de sauce, ça veut dire mettre moins de sucre dans le thé, ça veut dire quoi précisément ?
Normalement, ça veut dire qu'il faut d'abord manger moins de sucre. Surtout qu'il y a la tradition de prendre du thé, par exemple, on peut prendre du thé 3 à 6 fois dans la journée, en plus du sucre qu'on a pris au petit déjeuner. Donc, on demande à manger moins sucré, mais également moins de graisse, surtout. Sinon, les féculents au Mali, le repas de base, c'est le riz. Donc, c'est impossible de dire aux gens de ne pas prendre du riz.
Sinon, on a faim, mais, tout simplement. Hein.
Exactement. Donc, c'est plutôt les sauces qui accompagne ces riz, qu'on essaie d'alléger, de les faire alléger en graisse, en matière grasse surtout.
Alors pour alléger une sauce, hein, on peut mettre davantage de légumes plutôt que de mettre du bouillon ou surtout l'huile ou la graisse en début de cuisson.
C'est surtout la graisse. Hein. C'est surtout les graisses et aussi les condiments que l'on met, par exemple la pâte d'arachide, parce que c'est ce qui est le plus consommé en sauce au Mali. Donc au moins qu'on allège la quantité de pâte qu'on met dans la sauce et qu'on ne fasse pas revenir la viande encore dans l'huile. Et quand c'est cuit aussi, essayer d'éliminer le surnageant d'huile qui se trouve sur la sauce.
Voilà, on écume, comme on dit, on retire. Même quand on fait refroidir, ça devient carrément solide. Là, on peut carrément l'enlever du haut de la marmite. Et puis, il y a cette alimentation aussi, ce qui est très important, professeur Assassi Dibé. Ce ne sont pas des médicaments, mais c'est l'activité physique.
surtout l'activité physique qui manque beaucoup. Mais comme la plupart de nos femmes aussi sont des ménagères, or qui dit ménagère quand même au Mali, ça veut dire beaucoup d'activité physique, même si ce n'est pas le standard que l'on recommande. Donc, il faut vraiment ces activités physiques, on leur demande de maintenir cela et de ne pas justement se mettre dans le lit et dire que je suis enceinte et je ne dois pas bouger. Donc, on essaie de faire cette activité physique à minima pour essayer d'améliorer un peu le surpoids.
Mais on le sait bien, professeur Assassi Dibé, quand on est au Mali ou dans d'autres pays de la sous-région, il va y avoir un problème quand on est diabétique et qu'on a besoin d'avoir un traitement pour justement contrôler ce diabète. Ce problème, c'est le prix des médicaments.
Énormément. Le prix des médicaments, mais également l'acceptation de l'insuline par les patientes. Mmh. C'est un gros souci parce que nous, nos femmes enceintes, il y a quelques-unes qui sont éduquées, qui sont un peu évoluées, qui appris les dangers, accepte souvent l'insulinothérapie. Mais même l'insulinothérapie qu'on doit faire chez ces femmes, ce n'est pas réalisé. Parce qu'il faut au moins 3-4 injections par jour. Certaines femmes, on a de la difficulté à ce qu'ils acceptent 2 injections et rarement les 3. Donc, c'est déjà un souci. Ensuite, il y a l'accessibilité. Il y a certaines personnes qui... pour raisons financières ou même pour des raisons de position géographique, vous disent qu'ils ne peuvent pas avoir de l'insuline. Donc, nous avons ce gros problème de traitement conventionnel du diabète gestationnel sur nos dames. Et la plupart continuent avec les ADO qui sont en train de prendre. Et avec ça, on essaie quand même d'essayer d'avoir une glycémie moindre, tout en sachant que ce n'est pas ce qui est recommandé. Mais 50% de nos femmes continuent leur grossesse avec les antidiabétiques oraux. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution à leur niveau ou pas de volonté à se faire des piqûres.
Et puis aussi des fausses croyances, hein, notamment sur l'insuline. On l'a vu, nous, avec une question posée par Nandou, qui est diabétique et qui a un problème de cataracte. Et elle nous a posé cette question en relayant des rumeurs. Vous allez nous en parler pour dire si c'est vrai ou si c'est faux, professeur Sidi Bé. On me dit que ce sont les injections d'insuline qui auraient favorisé la cataracte.
Il y a beaucoup de choses que les malades disent. Certains disent même, on nous a dit que quand on nous met sous insuline, on n'en peut plus. D'autres qui disent, oui, mais quand on met l'insuline, c'est qu'on arrive à la fin de sa vie. Alors, il y a
fausse croyance. Donc vous dites bien à Nandou, pour répondre ponctuellement à sa question, oui. Je m'excuse de vous avoir interrompu, vous dites bien que s'il y avait une cataracte, le problème, c'était peut-être un problème simplement ophtalmologique ou le diabète, mais ce n'est pas le médicament qui a provoqué le problème.
Pas du tout. Au contraire, les cataractes, il y a plusieurs raisons de faire la cataracte. Et surtout, l'hyperglycémie peut provoquer la cataracte chez les sujets jeunes. Donc, il faut vraiment enlever. Ce n'est pas le traitement qui crée la cataracte, mais peut-être autre chose. Et il faut gérer la maladie sous-jacente.
Merci infiniment pour toutes ces explications. Professeur Assassi Dibé, endocrinologue, professeur à la faculté de médecine de Bamako.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
Alors, on arrive à la fin de notre échange, professeur Emmanuel Cosson. On a parlé de tout ce qu'il faut faire justement pour éviter les complications majeures d'un diabète gestationnel. On va quand même en parler pour terminer, même si j'espère que ça n'arrivera à personne, mais c'est un risque effectif. Ce risque majeur, c'est la pré-éclampsie.
Oui, il y a des problèmes de tension en fin de grossesse et donc aussi de placenta. Et il peut y avoir une souffrance du fœtus, donc ça, c'est un vrai souci. Mais ce que je pense aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le futur après un diabète gestationnel. C'est vrai que souvent, une future maman qui a un diabète gestationnel, elle va s'attacher à ce que la grossesse se passe bien, elle est très motivée pour elle et son enfant.
Et lâcher prise après.
Et souvent, elle va lâcher prise. Or, il y a vraiment des conséquences très importantes après la grossesse.
Donc, il faut un suivi particulier.
Oui, et finalement, toute l'action qu'on fait, qu'on mène, nous, équipe soignante avec les femmes, c'est à la fois pour que la grossesse se passe bien, mais on veut les prévenir de complications plus tard. En pratique, une maman qui a un diabète gestationnel, même si le diabète disparaît juste à l'accouchement, d'ailleurs on fait un test normalement dans le 1 à 2 mois juste après, souvent c'est normal, mais quelquefois on découvre un diabète pour de vrai qui est resté, qui est là, qui était là avant et qui est toujours là. Mais même les femmes, c'est normal, il ne faut pas qu'elles soient complètement rassurées. Elles ont un sur-risque de développer un diabète. Les dernières études montrent qu'une femme sur 10 à 10 ans aura un diabète. Or, on peut le prévenir. Donc, tout ce qu'on a appris pendant la grossesse sur l'alimentation, l'activité physique, permet de réduire le risque plus tard.
Suivi pendant la grossesse et suivi après, on a bien compris le message. Professeur Emmanuel Cosson, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes diabétologue au centre hospitalier Jean Verdier de Bondy. Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous nos auditeurs.
Docteur Solano, sexologue, vous répondez aux questions des auditeurs de Priorité Santé. Alors c'est une question Facebook aujourd'hui et elle nous est posée par Daniel. Daniel qui vit à Kinshasa en RDC. Sa question est la suivante, donc vous allez y répondre Docteur Solano. Les préliminaires sont-ils obligatoires ou juste une phase importante? Et puis Daniel demande aussi, est-ce qu'on ne risque pas d'épuiser sa vigueur pendant ses préliminaires et donc de risquer donc une éjaculation précoce? Première question, donc est-ce que c'est une phase importante?
Alors c'est une phase importante les préliminaires bien sûr. Pourquoi? Parce que en fait c'est important pour que le désir passe de la tête dans le corps. C'est-à-dire que si vous n'avez que du désir, vous allez avoir un sentiment, une sensation. Quand vous avez des préliminaires, vous allez avoir une excitation sexuelle, c'est-à-dire une réaction corporelle. Donc c'est très important. Et le but des préliminaires, c'est de nous permettre de faire l'amour et de réaliser une pénétration.
Alors c'est une utilité sexuelle. Quand on dit les préliminaires, c'est utile. On veut dire quoi précisément?
Alors, on veut dire que les préliminaires, s'il n'y en a pas du tout, le pénis n'aurait pas d'érection et le vagin n'aurait pas de lubrification. Donc, la pénétration serait vraiment très difficile, douloureuse, voire impossible. Donc, en fait, les préliminaires, c'est ce qui permet au corps de réagir, de s'activer et de se dire « oui, je suis prêt pour une pénétration à un moment donné ».
Donc on a bien compris l'utilité. Maintenant, il y a les craintes qu'exprime Daniel. Deuxième partie de sa question, quand il dit est-ce qu'il y a un risque d'éjaculation précoce avec ces préliminaires?
Alors, si les préliminaires sont bien faits, sont faits de manière adaptée, bien au contraire, ça aide un homme à ne pas avoir d'éjaculation précoce, donc à retarder son éjaculation.
Alors, des préliminaires adaptés, ça veut dire quoi?
Alors, c'est des préliminaires non sexuels. C'est-à-dire que la partenaire de cet homme qui n'a pas envie d'avoir une éjaculation précoce devrait lui faire des préliminaires en lui faisant des caresses, des baisers sur tout le corps, mais pas sur la zone sexuelle. Donc, sur le visage, le cou, les épaules, les jambes, les pieds, les mains, les bras, le dos, mais pas la zone sexuelle. Pourquoi? Parce que les caresses sur la zone sexuelle font monter l'excitation très vite et vont accélérer le déclenchement de l'excitation. De l'éjaculation, enfin la montée de l'excitation et le déclenchement de l'éjaculation, ça veut pas dire qu'il faut jamais faire de caresses sexuelles, bien sûr, mais pas tout de suite, il faut vraiment prendre le temps.
Alors quand on parle des relations intimes, il y a beaucoup de « on dit » et ce que l'on entend par exemple, c'est que la femme aurait besoin de davantage donc de préliminaires qu'un homme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a cette différence?
Oui, c'est vrai et vous savez la raison pour laquelle c'est ainsi, c'est que chez une femme, c'est un peu la même chose que chez un homme. Avec l'excitation, les tissus sexuels gonflent. Chez l'homme, c'est l'érection, chez la femme, la lubrification. Et chez une femme, les tissus qui gonflent sont beaucoup plus volumineux que le pénis parce que c'est tout le tour du vagin et ainsi que ses racines. Et c'est à peu près 3 fois plus volumineux, donc il faut à peu près 3 fois plus de temps de préliminaire pour qu'une femme soit prête à la pénétration. Et donc, c'est pour ça que quand un homme se dit « j'ai fait mon travail, j'ai fait des préliminaires comme il faut, je suis prêt », ça veut dire qu'il faut qu'il en fasse encore 2 fois plus, disons 3 fois plus en tout, parce que la femme, eh bien, elle n'est pas forcément prête.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Je rappelle que vous êtes sexologue et on vous retrouve très bientôt dans Priorité Santé.
Avec plaisir, Caroline.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Demain, gros plan sur la journée de mobilisation pour l'hôpital public en France. Manifestation, revendication. Vous retrouverez à ce micro Igor Strauss. À demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Faites comme tous nos clients prévoyants. Mettez à l'abri ceux qui vous sont chers. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.